Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la bêta-thalassémie et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Valentine Brousse. Docteur Brousse, bonjour.
Bonjour.
Docteur Brousse, vous êtes pédiatre, praticien hospitalier au sein du service d'immunohématologie pédiatrique de l'hôpital Robert Debré à Paris et clinicien au sein du centre de référence des maladies constitutionnelles rares du globule rouge et de l'érythropoïèse, puisque votre service est site constitutif. Vous êtes également co-rédactrice du tout récent PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins sur les symptômes thalassémiques, publié en juillet 2021 sous l'égide de la filière MCGRE. Alors, docteur Brousse, nous abordons aujourd'hui la bêta-thalassémie chez l'enfant. Quelles sont justement les spécificités de cette maladie chez l'enfant ?
Alors, c'est une maladie, si on parle de bêta-thalassémie majeure ou transfusodépendante, hein, qui va être l'essentiel du sujet, c'est une maladie qui, bien sûr, peut s'exprimer à l'âge pédiatrique. Alors, la manière dont le diagnostic est fait aujourd'hui, c'est souvent en période néonatale, à la suite du dépistage néonatal des hémoglobinopathies. En fait, ce dépistage a pour objectif non pas de dépister la thalassémie aujourd'hui, mais de dépister d'autres maladies de l'hémoglobine. Mais à l'occasion de ce dépistage, on peut mettre en évidence des défauts thalassémiques. C'est surtout chez les enfants qui vont avoir une expression précoce et sévère de la maladie. Sinon, les symptômes peuvent s'exprimer dans les premiers mois de vie. C'est souvent des symptômes liés à l'anémie, bien sûr, qui sont chez l'enfant essentiellement une pâleur, mais surtout une difficulté de croissance. Ça s'exprime chez le tout petit par une difficulté à boire les biberons, par exemple, et puis une difficulté de croissance. Parfois, il existe des signes autres, mais c'est plus rare. Et ça va donc amener, si le diagnostic n'a pas été fait préalablement, à faire une numération formule sanguine et de diagnostiquer une anémie. Et puis, la suite de la prise en charge va consister à surveiller l'enfant. Soit il a d'emblée une anémie très sévère qui justifie une transfusion, soit au contraire, c'est une anémie sans trop de conséquences cliniques, et à ce moment-là, une surveillance va se mettre en place. En général, on pose un taux d'hémoglobine autour de 7 grammes par décilitre comme seuil de transfusion chez ces enfants. De manière générale, chez l'enfant, il y a peu de complications cliniques qui, elles, vont s'exprimer plus tardivement, plutôt à l'adolescence ou à l'âge adulte.
Et quels sont les fondamentaux de la prise en charge de cette bêta-thalassémie chez l'enfant ?
Alors, les fondamentaux vont être, c'est vraiment le couple transfusion-chélation. Transfusion sanguine, c'est-à-dire qu'on apporte des culoglobulaires pour compenser l'anémie, un rythme qui va être défini en fonction de la surveillance de l'enfant, de sa surveillance paraclinique et clinique. C'est variable d'un enfant à l'autre, mais en général, la transfusodépendance va induire une nécessité de transfusion toutes les 3 à 5 semaines environ. Et cette transfusion va, comme chez l'adulte, s'accompagner d'un corollaire obligatoire qui est la nécessité de chélater le fer, puisque chaque transfusion apporte du fer obligatoirement qui va augmenter progressivement et induire les complications bien connues de la surcharge en fer, qui sont des complications hépatiques, cardiaques et endocrinologiques, et en particulier chez l'enfant ou chez le grand enfant, des complications qui vont venir interférer sur la croissance et le développement pubertaire. Je voudrais quand même ajouter qu'un des fondamentaux de la prise en charge, c'est de rechercher, lorsqu'on a établi une transfusodépendance chez l'enfant, d'aller chercher un donneur au sein de la fratrie, s'il y en a une, parce que la bêta-thalassémie transfusodépendante est un diagnostic qui donne lieu à une possibilité de greffe, greffe de moelle osseuse, afin de définitivement guérir la pathologie. Aujourd'hui, les recommandations sont de proposer une greffe géno-identique à partir d'un donneur issu de la fratrie, mais il y a de plus en plus d'ouverture à des greffes alternatives ou à d'autres thérapeutiques.
Alors, on sait que les patients, notamment atteints de maladies rares, sont de plus en plus impliqués dans la gestion de leur maladie. Quel est le rôle de l'éducation thérapeutique, Dr Bruce, chez les jeunes patients et ou chez les parents d'enfants atteints de bêta-thalassémie?
L'éducation thérapeutique dans les maladies chroniques, de manière générale, elle est absolument indispensable parce qu'elle vise à rendre les patients autonomes et experts de leur propre maladie. Alors, c'est vrai qu'en pédiatrie, on a une particularité, hein, c'est qu'on va d'abord faire de l'éducation thérapeutique pour les parents lorsque l'enfant est petit, puisqu'il ne peut pas, par définition, être autonome. Et c'est une éducation thérapeutique qui est somme toute la plupart du temps assez facile hein, parce que les parents, bien entendu, sont les premiers interlocuteurs et sont très concernés par la situation médicale de leur enfant. Là où les choses deviennent un peu plus complexes, c'est au moment de l'adolescence, lorsque ces enfants ont grandi, qu'ils ont à la fois le poids de la maladie qu'ils ont derrière eux et puis l'envie, comme tous les adolescents, de s'affranchir de toute contrainte. Et là, il y a un moment particulièrement délicat qu'il faut vraiment anticiper et aborder. Et l'éducation thérapeutique vise à dans cette maladie particulière-là, elle vise à vraiment faire prendre conscience aux patients de l'importance du contrôle de la surcharge en fer, parce que pour le reste, pour la transfusodépendance, disons que les patients peuvent avoir directement, immédiatement, des symptômes hein, liés au fait de ne pas être transfusés. Donc, ils vont être finalement pas tellement poser de problèmes de compliance vis-à-vis des transfusions sanguines, mais en revanche, ils vont poser largement des problèmes de compliance au traitement par rapport au traitement chélateur, puisque la surcharge en fer, elle est indolore, invisible et pose pas tellement de soucis cliniques. Et de ce fait-là, il faut vraiment les rendre très, 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 très responsables du contrôle de ce problème-là.
Alors, vous l'avez un petit peu abordé, Dr Bruce, lorsque ces jeunes patients grandissent, comment s'opère la transition enfant-adulte chez ces patients atteints de bêta-thalassémie ?
Alors oui, j'ai effectivement parlé de cette période un peu fragile. Alors disons que j'ai abordé le problème de la compliance au traitement dans l'adolescence. Et puis après, il y a la période de transition qui se fait quand même en général un peu plus tard, lorsque le patient est considéré comme autonome et qu'il a surtout aussi terminé sa croissance. À ce moment-là, s'opère une transition du service pédiatrique au service adulte, qui est une période effectivement de fragilité qu'il faut accompagner en amont avec de l'éducation thérapeutique qui vise à être bien bien sûr que les fondamentaux du traitement sont compris et qui vise aussi à très très bien articuler la prise en charge et la communication entre le service pédiatrique et le service adulte. Et puis la transition, elle est plus large que simplement un problème médical, c'est aussi réussir à passer ces jeunes les insérer dans une vie sociale, dans une vie scolaire ou universitaire. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont également abordés au moment de la transition et qui sont très importants.
Alors on arrive au terme de notre entretien, Dr Bruce. Quelles sont les perspectives de recherche qui existent sur la bêta-thalassémie chez l'enfant ?
Alors, il existe plusieurs pistes de recherche. Il y a une recherche qui est assez active, à vrai dire. On a des médicaments qui peuvent diminuer la transfusodépendance. Et il y a un certain nombre d'autres médicaments qui sont dans les tuyaux. Il existe aussi des pistes très intéressantes de développement et de recherche qui sont sur les traitements chélateurs, en particulier améliorer, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la compliance au traitement est extrêmement importante. Donc tout ce qui va faciliter la prise de ces traitements est importante et novatrice. Et puis il y a évidemment tout le champ de la thérapie génique et de la greffe sur lequel je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui sont des perspectives extrêmement importantes pour nos patients. Et puis, je voudrais terminer effectivement sur une autre piste de recherche hein, qui est moins thérapeutique, mais qui est importante aussi, qui est celle de l'éducation thérapeutique. Il faut développer des outils pour améliorer la compliance au traitement chez ces patients.
Eh bien, merci mille fois, Dr Bruce, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la bêta-thalassémie. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite !